l'actualité. 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et la une de ce journal, la libération de l'universitaire Étienne Fakaba Sissoko hier au Mali, après un an de détention. Boualem Sansal condamné quant à lui à 5 ans de prison en Algérie. L'écrivain franco-algérien pourrait-il bénéficier d'une grâce? On se posera la question. Le Sénégal ensuite et la polémique autour d'un texte législatif qui prévoit d'encadrer une loi d'amnistie passée par l'ancien régime. Une loi que les nouvelles autorités avaient promis d'abroger. Et puis 2 mois après la prise de Goma dans l'est de la RDC, sur place, les nouvelles autorités issues de la FCM23 tentent de déminer l'aéroport international qui reste fermé à l'heure actuelle. Après un an de détention, désormais libre au Mali, l'universitaire Étienne Fakaba Sissoko a donc quitté hier la prison de Kenioroba, à 75 km de Bamako. Il avait été condamné l'an passé, en mai 2024, pour atteinte au crédit de l'État, condamné après la publication d'un livre dans lequel il qualifiait la communication du gouvernement malien de transition de propagande. Étienne Fakaba Sissoko, désormais libre donc, David Baché, mais sa bataille judiciaire n'est pas terminée pour autant.
Après avoir quitté sa cellule, Étienne Fakaba Sissoko a réaffirmé son engagement pour la liberté d'expression et le débat académique. Après une année de détention, il est rentré chez lui. Son avocat, Maître Ibrahim Marouf Sako, peut enfin se réjouir.
Enfin, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Étienne Fakaba Sissoko a regagné les siens, sa femme, ses enfants, sa maman. Et il va pouvoir désormais regagner ses étudiants à la faculté des sciences économiques de Bamako, où est véritablement sa place.
Étienne Fakaba Sissoko avait écopé d'une année de prison ferme qu'il vient de purger, mais aussi d'une année avec sursis, une menace qui continue de planer. Le chercheur avait été condamné pour atteinte au crédit de l'État, injure et diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique, après la publication d'un livre sur la propagande du gouvernement malien de transition, dans lequel il estimait notamment que les vidéomènes, activistes utilisés par le pouvoir, décrédibilisaient la parole publique. Étienne Fakaba Sissoko souhaite désormais être innocenté, Maître Sako.
On a un recours qui n'est pas épuisé. Nous pensons que tôt ou tard, justice sera faite parce que c'était des expressions d'opinion. Un travail universitaire, donc nous espérons que à l'issue de l'examen de ces recours, Étienne sera blanchi.
Outre sa peine de prison, Étienne Fakaba Sissoko avait aussi été condamné à verser 3 millions de francs CFA, près de 4600 euros, de dommages et intérêts à l'État malien.
David Baché, 5 ans de prison en Algérie, la peine prononcée contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné notamment pour atteinte à l'intégrité territoriale. Un dossier qui a provoqué des tensions entre Paris et Alger. Le président français a d'ailleurs réagi. Emmanuel Macron souhaite que Boualem Sansal puisse redevenir un homme libre. Le président français dit compter pour cela sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes. Boualem Sansal pourrait-il ainsi bénéficier d'une grâce? Un processus politique en tout cas est en cours. C'est ce que nous explique Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
On s'attend à une visite du ministre des Affaires étrangères français, M. Barrot, à Alger, probablement le mois d'avril. Deuxième indicateur positif, c'est que les contacts n'ont jamais cessé entre Alger et Paris. Et Alger, enfin les autorités algériennes savent très bien que le président Macron a fait de l'affaire Boualem Sansal une question importante dans l'amorce de ce dialogue. En quelque sorte, le président Macron, qui a été cité par M. Tebboune comme finalement le point de référence pour Alger, ce sont des éléments qui plaident en faveur plutôt d'une réconciliation. Et seul, bien sûr, ce processus politique, l'amorce de ce dialogue, l'engagement personnel du président Macron dans l'affaire de Boualem Sansal est en mesure, bien sûr, d'arriver à une solution, puisque nous avons la possibilité d'une grâce présidentielle. L'échéance, bien sûr, c'est le 5 juillet, mais cette grâce, elle peut très bien, pour des raisons de santé, pour des raisons aussi d'un âge avancé, elle peut très bien intervenir avant les fameuses grâces présidentielles lors des événements de 5 juillet, la date de l'indépendance de l'Algérie.
L'analyse du chercheur Asni Abidi, l'inquiétude des chancelleries occidentales autour du Soudan du Sud. Elles appellent au calme au lendemain du placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar. Communiqué commun signé par les ambassades notamment de l'Union européenne et des États-Unis. Un projet de loi qui fait polémique au Sénégal. Proposition émanant du parti au pouvoir visant à interpréter une loi d'amnistie adoptée il y a un an. Une loi prévoyant d'exempter de poursuites toute personne responsable de crimes commis entre février 2021 et février 2024 lors des manifestations de l'opposition. Les nouvelles autorités avaient promis d'abroger ce texte, mais au final, c'est une loi d'interprétation qui a donc été proposée et qui suscite les débats. En réaction, 18 associations de la société civile demandent à ce que le Parlement reporte son examen, le temps de trouver un consensus, comme nous l'explique la secrétaire générale de l'Organisation nationale des droits de l'homme, Maître Habiba Toussambe.
Cette loi d'amnistie, aujourd'hui, est-ce qu'on l'abroge? Est-ce qu'on la maintient comme telle? Est-ce qu'on l'interprète comme on souhaiterait le faire? Étant précisé que l'idée qui domine le plus aujourd'hui, c'est de voir cette loi d'amnistie abrogée. Donc, suspendre l'analyse de cette loi, le temps d'avoir les contours, d'avoir une idée un peu plus large sur ses éventuels effets, et surtout s'orienter vers une idée de concertation nationale pour voir comment gérer la période post-abrogation, si toutefois la loi d'amnistie venait à être abrogée, ou s'il y a d'autres alternatives pour prendre en charge les préoccupations aussi bien de la société civile que les victimes et familles de victimes.
Un projet soutenu en revanche au Sénégal par Amnesty International pour Sedi Gassama, directeur de l'ONG au Sénégal. En effet, l'abrogation pure et simple de la loi d'amnistie n'étant pas possible, eh bien la loi d'interprétation semble selon lui être un bon moyen d'éviter l'impunité.
Beaucoup de juristes, y compris les juristes de l'ancien pouvoir, l'ancienne garde des Sceaux, M. Stassal, on dit à plusieurs reprises que l'abrogation n'était pas possible, que la loi d'abrogation ne pouvait pas être rétroactive, et donc il se retrouvait dans une situation de blocage. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut soutenir cette loi et faire en sorte qu'elle soit adoptée et que les victimes puissent avoir justice. Évidemment, les critiques pensent que ce sont les membres de forces de défense et de sécurité qui sont visés, ce qui n'est pas du tout exact. Il ne s'agit pas d'envoyer des membres de forces de défense et de sécurité à l'échafaud, il s'agit d'enquêter, de situer des responsabilités et de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes de sang.
Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. La RDC travaille à un départ prudent et coordonné des troupes sud-africaines déployées dans l'Est congolais. Annonce hier de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui était en déplacement justement en Afrique du Sud, aux côtés également du ministre congolais de la Défense, Guy Kabombo Mouadiamvita. Pendant ce temps, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait une nouvelle fois en abordant cette question de l'Est congolais. Kinshasa a accusé le Rwanda d'un mépris flagrant pour le processus de paix, alors que le chef de la diplomatie rwandaise a assuré, lui, que son pays ne faisait que se défendre. Le Rwanda, régulièrement pointé du doigt pour son soutien à la FCM-23, le groupe armé qui a pris le contrôle notamment de la capitale du Nord Kivu, Goma, en janvier. Sur place, situation compliquée d'ailleurs, l'aéroport international reste fermé à ce jour. Il est pourtant crucial dans la région pour les vols commerciaux comme pour le maintien d'un couloir humanitaire. Les nouvelles autorités locales issues de la FCM-23 ont donc entamé un processus de déminage, Alexis Guilleux.
Deux mois après la prise de la ville, le son des avions a cédé sa place au silence. À l'entrée de l'aéroport, des combattants de la FCM-23 sont stationnés. Au milieu des bâtiments détruits et des bureaux pillés, des herbes ont commencé à pousser. Des spécialistes s'activent pour déminer la zone. La FCM-23 affirme avoir déjà sécurisé une partie de l'aéroport de Goma, mais il reste du travail car une grande quantité de mines et d'explosifs y ont été disséminés. Le tarmac, lui, est déjà déminé. Autour, on peut voir les cartouches et les obus récupérés par le groupe armé. Mais la piste, elle, reste inaccessible et la tour de contrôle n'est plus opérationnelle depuis les combats. Les stigmates de la guerre sont encore visibles dans l'enceinte de l'aéroport, des hélicoptères de l'armée capturés, d'autres endommagés et des colonnes de gilets militaires stockées à proximité de l'entrepôt central. Depuis la prise de Goma, des organisations onusiennes et régionales plaident pour la réouverture de l'aéroport afin de permettre la création d'un couloir humanitaire. Dans un récent rapport, le secrétaire général de l'ONU a pointé les restrictions de déplacement imposé par la FCM-23 à la MONUSCO, ce qui empêche le service antimine de neutraliser tous les engins non explosés.
Et dans ce contexte, Alexis Guilleux, le concert Solidarité Congo, finalement reporté à Paris, prévu en soutien aux victimes de la guerre dans l'Est congolais, il devait se tenir le 7 avril, soit le jour du début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. L'UNICEF, qui devait récolter les bénéfices, s'était désengagé face à la levée de boucliers. La mairie de Paris, actionnaire de la salle de concert, avait saisi le préfet de police pour demander son interdiction. Ce dernier ordonne donc le report de l'événement à une date qui reste à fixer. Et puis, un mot rapide sur la CAN des moins de 20 ans de football. C'est désormais confirmé, elle n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire, mais en Égypte. La Confédération africaine de foot confirme le désistement ivoirien en raison de circonstances imprévues. Et c'est donc l'Égypte qui hérite de la patate chaude. Juan Gomez appelle sur l'actualité.
On va peut-être en parler dans la libre antenne. Merci infiniment, oui. Sébastien Duhamel. Bonne journée, prochain grand rendez-vous.